Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, votre émission, avec des chroniques aujourd'hui, et puis également un blind test autour de la filmographie de Stéphane Brisé. Alors pourquoi Stéphane Brisé? Eh bien tout simplement parce qu'il sort Un autre monde, un nouveau film avec Vincent Lindon. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors toi, tu vas nous parler d'une adaptation d'un jeu mémorable que tu aimes beaucoup.
Oui, c'est l'adaptation à la fois attendue et crainte d'Uncharted, donc par Ruben Fleischer, d'après le monstrueux jeu vidéo de Naughty Dog.
Quant à Manu, il va nous parler de The Power, un film de frousse, mais on va commencer cette émission avec un père biologique qui veut récupérer son enfant 6 ans après sa naissance. Un vrai déchirement pour la mère biologique, c'est La vraie famille de Fabien Gorgeard et ses marines. Qui nous en parle?
J'ai des exos pour les meilleurs films qu'on passe en ville.
Cinérama, parfait, judicieux, simple et logique.
Monsieur Carnero a écrit au juge pour enfants. Il veut que son fils retourne vivre avec lui.
Anna, interprétée par Mélanie Thierry, est avec son mari, ce que l'on appelle une famille d'accueil. Ils hébergent et élèvent des enfants qui ne peuvent plus être pris en charge par leur famille contre une rémunération et dans l'attente d'un retour à la normale qui souvent met plusieurs mois, voire même plusieurs années. Ils ont notamment accueilli le petit Simon à ses 18 mois, dont le père veuf ne pouvait plus s'occuper. Et 6 ans après, ils sont devenus finalement sa vraie famille. Surtout Anna, qui lorsqu'on lui annonce que Simon va rentrer vivre chez son père, a beaucoup de mal à accepter de se séparer de celui qu'elle considère comme son propre fils. Ressentant de plein fouet la situation comme une injustice, Anna va se battre pour pouvoir garder Simon auprès d'elle.
Ça, je m'attendais pas à ça. Bon, Simon est arrivé chez vous quand il avait 1 an et demi, donc c'est normal que vous soyez émue.
Ce que je comprends pas, c'est qu'il nous ait même pas consulté, quoi. On compte pas, nous, quoi.
Tu seras où, toi, pendant que je serai chez papa?
Je serai à la maison, je t'attendrai.
Je voulais lui dire, ça m'a fait super plaisir de recevoir une carte de Simon pendant les vacances.
Ouais. Eddie me dit que ça l'aiderait que Simon arrête de vous appeler maman.
Mais je vais t'appeler comment? Je veux t'appeler maman. De toute façon, je vais le faire dans ma tête.
Fabien Gorgeard nous avait déjà livré sur le thème de la filiation Diane à les épaules, joli film dans lequel Clotilde M portait l'enfant de ses amis avec pour projet de s'en séparer à la naissance. Dans La vraie famille, le réalisateur s'interroge à nouveau sur ce qui fait le lien entre les parents et les enfants, les liens du sang et ceux du cœur. Le film nous surprend d'abord en adoptant pas du tout les codes du drame social. Les mouvements de caméra sont très visibles et très travaillés. La caméra n'est presque jamais fixe, hormis lors des rendez-vous avec les assistantes sociales enfermées dans des bureaux. Mais lorsqu'il s'agit de rendre compte du bonheur et de l'effervescence de la vie familiale, la mise en scène nous entraîne avec une belle énergie. Il y a du Terrence Malick dans la façon dont cette caméra suit cette famille pleine de vie, dans sa manière de capturer la lumière du ciel et les émotions contradictoires des personnages. En plus de cette image très lumineuse, colorée, vivante, la musique est très présente. La musique pop, avec le choix de morceaux sur lesquels nous avons tous plus ou moins des souvenirs, comme Daydream de High Monster ou Marcia Baila de Rita Mitsuko, comme si le réalisateur voulait nous donner l'impression que nous appartenons à cette famille. En même temps, le film n'idéalise rien et donne à voir la réalité aussi des familles d'accueil, à savoir que c'est un vrai métier puisque les familles d'accueil sont rémunérées, ont des obligations, des devoirs. Elles ont notamment le devoir de fournir de l'amour et de la présence aux enfants, mais aussi de tout faire pour faciliter le retour des enfants dans leur vraie famille, entre guillemets. Mélanie Thierry livre une composition extrêmement émouvante. La comédienne, qui avait certes déjà largement prouvé son talent en interprétant Marguerite Duras dans La Douleur, et que l'on a ensuite vue dans l'un des premiers rôles de la série En Thérapie, s'est débarrassée de quelques-uns de ses tics de jeu, dont cette habitude un petit peu agaçante de sourire en pleurant. Et elle donne ici à voir un jeu très épuré et assez impressionnant. D'ailleurs, d'une façon globale, tous les comédiens, y compris Lies Salem, y compris Félix Moati, sont excellents. On ne voit tout simplement pas des acteurs, mais des personnages et même de vrais gens. À noter que Félix Moati apporte une très juste sensibilité à son personnage de père sur le retour, ce qui empêche le spectateur de glisser dans le manichéisme avec d'un côté la gentille famille d'accueil et de l'autre le père biologique toxique. On a coutume de dire que le second film est une épreuve difficile, souvent casse-gueule. Aucun doute qu'avec La vraie famille, le réalisateur Fabien Gorgeard, tout en poursuivant l'exploration des thématiques qui lui sont chères, réussit cette épreuve du feu haut la main.
La vraie famille de Fabien Gorgeard est en salle depuis le 16 février. Adaptation du jeu Uncharted Drake's Fortune avec Tom Holland et Mark Wahlberg, c'est Uncharted.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Il existe des endroits qu'on ne trouve pas sur une carte. Ils n'ont pas disparu. Ils sont seulement oubliés.
Uncharted résume à lui tout seul l'un des très gros problèmes du 21e siècle, la difficulté à laisser mourir le passé et à se créer une nouvelle mythologie faite de héros nouveaux et originaux. Rappelez-vous, en 1981 sortait un petit film chaperonné par George Lucas à la production et réalisé par Steven Spielberg qu'il s'intitulait Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Sa suite, Indiana Jones et le Temple Maudit, qui sort 3 ans plus tard, fait suite à l'immense succès de l'opus initial et marque dans tous les esprits la suprématie de l'homme au fouet en proclamant haut et fort sur son affiche que l'aventure a un nom. 4 décennies plus tard, le cinéma n'a plus la superbe qu'il avait. L'industrie a profondément changé, préférant exploiter ad nauseam les suites, remakes et reboots, adoptant même cyniquement le terme de franchise qui est même entré insidieusement dans le vocabulaire des cinéphiles. À l'heure où cette critique est émise, Indiana Jones a connu en tout 4 aventures, dont une tardive et controversée, et s'apprête à relâcher une 5e, sans Spielberg à la barre, mais toujours avec Harrison Ford qui a désormais 80 ans. L'aventure, cela fait donc longtemps qu'elle a déserté les salles de cinéma. Déjà parce que le genre est malheureusement retombé en désuétude à cause des super-héros Marvel et des voitures tunées de Fast and Furious, mais aussi parce qu'il n'y a tout simplement pas eu de relève. Le vrai nouveau héros d'action à la Indiana Jones, alors comprendre charme ravageur, cadre exotique et action trépidante sous fond d'énigmes historiques, il existe depuis la fin des années 2000, mais sur console, et se nomme Nathan Drake. La série des jeux Uncharted fait partie des plus belles réussites vidéoludiques de tous les temps et prouve que le monde du jeu vidéo n'a depuis belle lurette plus rien à envier à celui du cinéma. Et alors qu'on pourrait s'enthousiasmer de l'adaptation des chefs-d'œuvre du studio Naughty Dog sur grand écran, tout nous fait grincer des dents. Car franchement, quel est l'intérêt d'essayer de singer une narration qui s'inspirait déjà très fortement du cinéma pour en tuer l'aspect interactif et remettre à plat une action qui s'en était affranchie? Surtout qu'Uncharted, preuve de sa pertinence, a vu ses niveaux les plus emblématiques être déjà pompés de façon non officielle dans des blockbusters récents, sans jamais arriver à en saisir leur dimension purement cinématographique. Un comble. Si vous avez déjà vu le final de Bad Boys for Life ou à peu près toutes les scènes d'action de La Momie version Tom Cruise, vous saurez de quoi il s'agit. Et quand on sait que l'impressionnante scène d'action à bord d'un avion cargo en perdition d'Uncharted 3, dont la reprise en live pour le film est utilisée dans toutes les bandes annonces, était déjà un hommage à la scène de l'avion du James Bond tué n'est pas joué, on se dit que le serpent se mord complètement la queue sans savoir où donner de la tête.
Pourquoi la carte et pas autre chose ?
C'est la route que Magellan a prise pour faire le tour du monde.
T'es calé en histoire, toi?
C'est le plus grand trésor qui n'ait toujours pas été retrouvé.
5 milliards, facile. Je pense que t'es là pour ton frère.
Vous connaissez mon frère Sam?
Si on trouve l'or, on trouve Sam.
Après une gestion chaotique, débuté en 2010 et qui a vu passer David Russell, Nate Berger, Seth Gordon, Sean Levy, Dan Tranenberg et Travis Knight. Ouf, au poste de réalisateur, c'est l'homme de paille Ruben Fleischer qui hérite de la chaise du réalisateur, ce qui ne laissait aucun doute quant à la qualité finale du produit, jamais envisagé comme une œuvre exigeante, ce qu'étaient les jeux. Rappelons que la politique du studio Naughty Dog est de retarder sans remords ses produits tant qu'ils ne procurent pas l'entière satisfaction de l'équipe de développement et qu'il s'agit ici du réalisateur de Venom. À cela vient s'ajouter le choix aberrant du poupin Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake, alors que ce dernier a normalement la 30aine, et du stéroïdé Mark Wahlberg dans la peau du mentor Sully, normalement dans la 60aine grisonnante bien tapée. En 2022, le nom de l'aventure, c'est Spider-Man et Marky Mark. De quoi faire pleurer tous ceux qui auront encore un semblant d'espoir dans cette adaptation rachitique et honteuse, tout de même budgétisée à 120 millions de dollars. Car oui, comme tous les récents Tomb Raider et Resident Evil, bienvenue à Raccoon City, c'est bien évidemment une catastrophe à tous les niveaux et qui transforme en mépris le plus éhonté l'incapacité crasse des actionnaires d'Hollywood à comprendre ce qui fait la spécificité d'un jeu et celle d'un film. Aucun fanservice, même le plus petit, ne pourra racheter l'affront subi. Et si vous voulez vraiment voir ce qu'Uncharted peut donner sur grand écran, ben replongez-vous dans l'oublié et pourtant excellent Sahara de Breck Eisner, sorti en 2005. Peut-être même plus que Indiana Jones, c'est lui qui semble en être le plus proche, en plus d'être le dernier grand film d'aventure avec Les Aventures de Tintin de Steven Spielberg, et The Lost City of Z de James Gray, ce dernier étant avec déjà Tom Holland au générique. Cela occupera donc bien mieux les mêmes 2 heures à prélever sur votre temps libre, en plus de vous redonner envie de découvrir ou de replonger dans les chefs-d'œuvre vidéoludiques de Naughty Dog, et cette fois-ci sans avoir le réflexe de chercher sa manette.
Uncharted est en salle depuis le 16 février, tout comme Un autre monde de Stéphane Brisé. Un cadre d'une entreprise décide de ne plus suivre les directives absurdes du groupe qui souhaite un plan social pour maximiser le profit des actionnaires. Et ça nous donnera l'occasion, ce film, Un autre monde, de jouer un blind test autour de la filmographie du réalisateur français.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinerama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
On me demande de me séparer de 58 personnes, et là, tu m'en donnes 30. Moi, je t'explique. S'il faut que je sacrifie 58 personnes pour en sauver 500, je vais en sacrifier 58.
Après La Loi du marché en 2015 et En guerre en 2018, Stéphane Brisé, et toujours avec Vincent Lindon pour acteur principal, revient nous parler des ravages du capitalisme avec Un autre monde, un film qui se situe dans la même veine que les deux premiers, en cela qu'on est encore en contact avec l'entreprise, le travail et l'environnement social. Alors, dans La Loi du marché qui a valu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes en 2015 à Vincent Lindon, le comédien interprète le rôle d'un quinca qui, après 20 mois de chômage, accepte un nouveau travail comme vigile de supermarché. Il découvre que son métier, c'est autant fliquer les consommateurs que les employés. Le voilà plongé dans un dilemme moral, être complice d'un monde sécuritaire ou le dénoncer. Dans En guerre, Lindon interprète un autre personnage, c'est un représentant du personnel cette fois, qui se bat avec ses collègues contre la fermeture de son usine qui emploie un peu plus de 1000 salariés, une usine qui réalise des bénéfices évidemment. Le cinéma vérité nous emmenait dans les manifs, les réunions, les négociations comme aucune fiction ne l'avait vraiment fait auparavant. Avec Un autre monde, Lindon est passé de l'autre côté. Il interprète Philippe Lemel, un directeur d'usine. Et ce coup-ci, c'est à lui que revient de trouver une solution pour réduire les effectifs, tout en conservant la productivité. Sauf que ce cadre émérite d'un grand groupe, lui-même rattaché à un groupe américain, ne parvient plus à l'aide de son tableur et de sa calculette à faire coïncider économie et cadence supportable pour ses salariés. Et cadence supportable pour ses salariés qu'il appelle ses collaborateurs. Alors avec ça, il divorce. Ce que sa femme lui reproche, c'est de ne plus avoir de temps pour elle, de ne lui consacrer que quelques week-ends par an, elle les a comptés. Et c'est d'ailleurs ainsi que débute avec âpreté le film de Stéphane Brisé. Après avoir énuméré le prix des biens dont le couple dispose, les sommes placées sur les différents comptes, la question est aussi de savoir ce qui revient à l'un et à l'autre. Et dans ce cas, c'est savoir combien ce chef d'entreprise qui a fait tant de sacrifices pour son travail va devoir céder à son ex-femme, Sandrine Kiberlin.
Monsieur a déjà accepté le divorce. On ne peut pas du coup tout lui imposer et il ne peut pas tout accepter.
C'est la même chose pour ma cliente. Son quotidien est devenu un enfer.
Elle vous a dit que moi je lui faisais vivre un enfer ?
À l'époque, j'ai pas signé pour que tu ramènes tous tes problèmes à la maison. C'était pas ça le deal.
C'est avec rigueur que le film avance et je n'aurais pas tout dit si je ne parlais pas du seuil du film. La véritable séquence du générique qui l'ouvre, soit une caméra qui se promène sur des photos de famille accrochées sur un mur. Car il n'y a pas que dans l'entreprise et le couple que ça déraille, mais également chez le plus jeune enfant qui a besoin de soins psychiatriques. Alors on a envie de dire « n'en jetez plus », mais pourtant, là est la maîtrise de Stéphane Brisé. Il ne surjoue pas avec cet élément dramatique la position du père à l'égard de son fils et d'observer, d'être attentif, patient, un peu comme le spectateur.
Je voulais vous rassurer par rapport à votre fils. On va le garder quelques jours pour comprendre ce qui s'est passé. Il a insulté son professeur, mais il l'a aussi menacé avec un compas.
Je flippe pour après, je sais pas ce qui va m'arriver après,
De même pour son entreprise, une fois qu'il a compris que l'entreprise finalement gagne suffisamment d'argent et qu'il ne s'agit là que de grossir les poches des actionnaires au détriment des salariés dont certains vont perdre leur poste, eh bien, ce chef d'entreprise refuse alors d'être un exécutant, un simple exécutant. Il se bat pour faire exister une solution qui sauve ses collaborateurs.
Comment on va gérer une contradiction qui va sauter aux yeux de tout le monde, un nouveau plan d'économie dans un contexte où l'entreprise est bénéficiaire ?
Tu poses une question à laquelle le groupe ne nous a pas demandé ni de répondre ni de réfléchir.
Comme pour les deux précédents films, Brisé met en place un dispositif où Vincent Lindon est au centre autour duquel gravite une somme d'acteurs et de non-professionnels interprétant au plus juste leurs personnages dans une veine naturaliste. Alors ça s'engueule, ça se tire dans les pattes, ça se ment, ça s'explique. Alors on est loin de ressources humaines ou de violence des échanges en milieu tempéré, de films français qui traitaient à leur manière de plan social. Ici, Brisé réalise un télescopage du travail qui broie le couple et la famille. C'est là le paradoxe. Pour le salarié éjecté, il met sa famille en danger, tandis que le cadre dirigeant qui reste à son poste met en danger son équilibre affectif.
Je t'ai dit, ça allait être compliqué tant que le groupe Elson n'atteint pas ses objectifs.
Alors moi, je dépends du groupe Elson. Je suis mariée avec Elson, moi.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer.
Il y a une stratégie dans cette entreprise,
oui,
on s'y tient.
Une stratégie qui ferait basculer nos collaborateurs dans la précarité, on s'y tient quand même.
J'aime les gens qui passent.
Je vais avoir 50 balais, quoi. J'ai plus d'années derrière moi que devant moi, c'est vrai, quoi. Je deviens quoi, moi, là-dedans, alors ?
Un autre monde, ce titre a une résonance particulière car il appelle le personnage joué par Vincent Lindon à dénoncer ce qu'il a toujours accepté et à changer pour lui, évidemment, mais pour les autres aussi. Un autre monde est un film vraiment remarquable qui ne peut pas laisser indifférent. Il est en salle depuis le 16 février et il nous donne l'occasion donc de jouer un blind test autour de la filmographie du réalisateur français.
Et maintenant ? Quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
Oui, oh, ça va !
Alors, Stéphane Brisé, c'est une dizaine de films, dont la moitié avec Vincent Lindon, donc ne vous étonnez pas si vous entendez souvent Vincent Lindon dans ce blind test. En revanche, j'ai essayé quand même de ne pas trop choisir des films avec Vincent Lindon, mais ça débute mal.
La déclaration du président de la République n'a servi à rien.
Non mais
ça devait avoir du poids, ça n'a pas de poids, ça devait inverser le rapport de force, ça n'a pas inversé le rapport de force.
C'est comme si je disais moi, votre mouvement ne sert à rien. Et l'arrêt du travail et le blocage des stocks ne sert à rien.
Ça sert pas à rien, ça sert à faire pression.
Vous voyez,
ça sert pas à rien.
C'est trouvé, Guillaume.
C'est En guerre.
Oui, film de 2018, c'est le quatrième film de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon. Et donc voilà de quoi il s'agit. Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de l'entreprise, eh bien, la direction de l'usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées. Les 1100 salariés emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, interprété par Vincent Lindon, eh bien, refusent cette décision brutale. Et ils vont tout tenter pour sauver leur emploi. Seulement 285 000 entrées en France. Ce deuxième extrait est quasiment deux fois plus de spectateurs dans les salles.
Là, par exemple, je suis en train de travailler sur un chantier qui est de l'autre côté de la ville, dans la rue, il y a la piscine. Je ne sais pas si vous voyez où est la piscine.
Ah oui, bien sûr, bien
bon,
sûr.
Ben voilà, alors, là, on rénove une petite maison. On change l'intérieur parce que la personne qui nous l'a demandé, évidemment, il ne veut pas habiter dans la même maison que celui qui habitait avant. Mais des fois, on arrive, il n'y a rien. Il y a quelqu'un qui vous commande une maison qu'il faut construire entièrement. Et alors ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mon métier parce que ça me fait quelque chose de ben on arrive, il y a rien et puis on repart quelques semaines plus tard et puis il y a une maison et il y a des gens qui vont vivre dedans. On a un peu participé à leur vie, quoi.
On précise que tu as vu peu de films de Stéphane Brisé, donc c'est pas très drôle pour toi. Mais je vais quand même donner quelques indices. Dans cette séquence très importante où Vincent Lindon, donc, est un maçon, il vient dans la classe de son fils pour expliquer son métier. Cette séquence nous montre des yeux complètement attendris de l'institutrice qui écoute Vincent Lindon. C'est Sandrine Kiberlin qui le regarde. Donc c'est un film de 2009 qui s'appelle Mademoiselle Chambon. Jean est quelqu'un de bien, donc un bon maçon, un bon fils, un bon père et un bon mari. Et dans son quotidien sans heurts entre famille et travail, il croise la route de Mademoiselle Chambon, l'institutrice de son fils. Il est un homme de peu de mots, elle vient d'un monde différent et ils vont être dépassés par l'évidence des sentiments. 500 000 entrées en France et puis César de la meilleure adaptation au passage. Troisième extrait de ce blind test consacré à Stéphane Brisé. À noter que j'ai choisi des extraits assez longs, mais c'est normal parce que ça vient un peu du cinéma de Stéphane Brisé qui fait durer les séquences et qui... Bon, il y a énormément de dialogue. Voilà. On écoute.
Vous n'avez pas autre chose, enfin, je sais pas. Quelque chose peut-être un peu plus léger.
Ah, d'accord. Alors peut-être dans les fruités.
Ouais. Mmh. Ouais, c'est bien. Ça, c'est bien, ça.
Ouais. C'est passion intense.
Passion intense? J'arrive pas un peu la même chose, mais avec un autre nom.
Si, on a Rose des Sables qui s'en rapproche.
Ah, très bien, Rose des Sables. C'est bien, très bien.
Bon, je vous l'emballe?
Oui, s'il vous plaît.
Voilà, une séquence donc où un homme cherche un parfum pour une femme qu'il vient de rencontrer. Bon, bah, comme t'as pas vu trop de films de Stéphane Brisé, ça ne sert à rien que je te donne des indices. L'acteur, c'est Patrick Chesnais, formidable dans ce film.
Ouais, je reconnaissais la voix, mais oui. Effectivement, je n'ai pas vu le film.
Et donc il ne choisit pas le parfum passion intense, mais pourtant la passion pourrait être intense, avec Anne Consigny. C'est « Je ne suis pas là pour être aimé », film de 2005, donc de Stéphane Brisé, 50 ans, huissier de justice, le cœur et le sourire fatigué, Jean-Claude Delsart a depuis longtemps abandonné l'idée que la vie pourrait lui offrir des cadeaux, jusqu'au jour où il s'autorise à pousser la porte d'un cours de tango. Et avec Le Bleu des Villes, son film précédent, Stéphane Brisé, eh bien, s'empare à nouveau d'un personnage a priori mal aimé. Là, c'est un huissier de justice. Et puis auparavant, dans Le Bleu des Villes, c'était une pervenche. Voilà. Et c'est même pour ça aussi que je m'intéressais à ce cinéma, voilà, de choisir un personnage qui a priori n'a pas l'appréciation du spectateur. 194 000 entrées en France.
Tout à l'heure, on discutait, et puis tu me demandais si tu avais trouvé ça bien. Et je voulais savoir si tu avais trouvé ça bien pas mal, bien moyen, bien super, bien génial, bien fantastique, bien extraordinaire, bien... Tu vois, quoi.
Je t'ai dit que j'avais trouvé ça bien.
Mais si, par exemple, tu mets une note, tu mets combien?
Pourquoi tu veux que je te mette une
note? Pour ça, faut ça pour rire, pour rire.
Non, pas des notes pour faire l'amour.
Ça n'a pas été trouvé hein, dans les studios. Cette séquence durait beaucoup plus longtemps, mais là encore, on voit que voilà, il y a une place qui est laissée vraiment à la continuité de la séquence. C'est un film de 2007 qui s'appelle Entre adultes. Grâce à un montage alerte passant d'un personnage à l'autre, Stéphane Brisé, dans une veine naturaliste, examine les relations sentimentales contemporaines hommes-femmes. Alors, ce sont 12 couples qui sont auscultés dans ce film choral où on s'aime, se ment, se manipule, se trompe, se confie et se quitte. Et seulement 46 000 entrées en France, mais autant vous dire que c'est un film que je recommande. On termine ce blind test avec un dernier extrait.
Là, moi, je suis là dans votre bureau, ouais. J'ai l'impression de venir indéfiniment et...
Ouais, moi, je vais vous dire franchement, la formation de Grutier, vu votre profil, enfin, je vous aurais pas poussé à faire cette formation. Hein,
ben oui, voilà, je l'ai faite, ben,
voilà, donc il faut faire avec.
Je l'ai faite, ouais. Si on n'a pas travaillé au sol sur un chantier, on peut pas être pris là-haut à la grue. Voilà. Oui, mais ça on nous l'a pas dit. Oui, mais ça on nous le dit pas. Donc on s'est retrouvé. On était sur un groupe de 15. Il y avait 13 personnes qui avaient jamais mis les pieds sur un chantier de leur vie. Et pour eux, ça a servi à rien. Donc ou vous dites aux gens qu'il n'y aura rien à l'arrivée. Ou sinon vous les envoyez vers quelque chose qui est utile, quelque chose qui sert.
Alors celui-ci, tu l'as trouvé.
C'est La Loi du Marché.
Oui, film de 2015. À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met bientôt donc face à un dilemme moral. On en a parlé tout à l'heure. Peut-il tout accepter pour garder son emploi quand on lui demande d'espionner ses collègues? Eh bien, le doute s'installe. Quasiment 1 million d'entrées pour ce film. C'est sans doute celui qui a fait le plus d'entrées en France.
C'est marrant parce que c'est celui qui, informellement et reste dans l'esprit des gens quand on parle de rapport de Vincent Lindon avec certains cinémas sociaux et donc en particulier chez Brisé vu qu'il a l'air de le prendre souvent. On appelle ça maintenant la Lindon-sploitation, alors de manière officielle parce que on a maintenant cette image de Lindon dans ce genre de cinéma avec ce genre de rôle fort et qui a l'air d'être bien présent là.
Et donc le film a été présenté en sélection officielle au Festival de Cannes 2015 où Lindon a remporté le prix d'interprétation masculine et puis du coup on lui a aussi donné le César en 2016. Voilà, ainsi s'achève ce blind test consacré à la filmographie de Stéphane Brisé. Nous terminons cette émission avec une infirmière débutante qui fait son premier jour dans un hôpital délabré et qui va devoir se battre contre des forces maléfiques. C'est The Power et c'est Manu qui nous en parle.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
La coupure de courant de ce soir nous force à transférer les patients. C'est vous qui serez de garde.
De garde ? Toute la nuit ?
L'obscurité vous effraie ?
The Power de la débutante Corinna Face, auteure également du scénario, qui aurait pu s'appeler Peur du Noir en français, débute sous les meilleurs auspices, exploitant judicieusement un décor froid et écrasant, un bâtiment ancien qui se trouverait être un hôpital étrangement déserté. Alors une jeune infirmière atterrit dans ce lieu hostile jonché de longs couloirs interminables et de pièces spacieuses aux murs immaculés. Pour son premier jour, elle se voit imposée par sa supérieure suite à une légère altercation de rester la nuit, ce qui n'était pas prévu. De l'Angleterre de 1973, date à laquelle se déroule l'action, nous n'en saurons pas grand-chose, hormis cette information capitale pour le déroulement de l'histoire. Le pays a décidé d'effectuer des coupures d'électricité pendant la nuit pour faire des économies, ce qui n'est pas rassurant à l'intérieur d'un endroit censé soigner des malades. En tout cas, il s'agit bien d'un drôle de contexte pour commencer un travail dans la sérénité, d'autant que dès les premiers plans, il est indiqué furtivement que Val, l'héroïne, n'est pas à son aise dans le noir, victime dans son enfance d'un trauma qui, évidemment, nous sera révélé plus tard. Cette situation, à la fois classique et singulière, s'avère très bien agencée dans sa première demi-heure oppressante et intrigante. L'efficacité de la mise en scène, alternant d'habiles mouvements de caméra et de cadrage glaçant, impose une atmosphère trouble sans qu'on sache vraiment où le récit veut nous amener.
J'ai été... attaquée.
Par qui ? Où ça ?
J'ai été poursuivie par quelque chose au sous-sol.
Par quelque chose ?
Quelque chose ou quelqu'un.
Et tu as vu son visage ?
Non, il faisait trop noir.
Tu n'as rien vu du tout ?
Non, rien du tout.
C'est ton devoir de dire les choses, en tant qu'infirmière.
Quand je me suis retournée, il n'y avait personne derrière.
Est-ce que tu inventes tout ça ? Je suis désolée, Val, mais il y a des rumeurs qui circulent.
Non, j'invente rien, je comprends qu'on puisse penser ça, mais... quelque chose me suit depuis qu'on est dans le noir.
C'est peut-être trop dur pour ta première nuit. Tu devrais peut-être retourner chez toi, te reposer.
Mais l'infirmière chef ne me gardera pas. Si je pars, je serai jamais engagée.
S'agit-il d'un film de fantôme, d'un thriller à tiroir sur fond de machination diabolique ou d'une étude quasi clinique d'un personnage déséquilibré et paranoïaque ? Cette dernière hypothèse est au départ accentuée par une galerie de personnages inquiétants gravitant autour de Val, distillant un réel malaise jusque dans les comportements bienveillants de certains d'entre eux. La lumière blafarde et la musique du groupe Gazelle Twins, aux ambiances planantes rappelant parfois les Goblins, accentuent le suspense qui évoque certaines œuvres sulfureuses de Roman Polanski, période 60 et 70. Alors consciemment ou non, ramener le spectateur vers l'auteur de Répulsion est l'idée la plus retorse et ironique du film qui finit par abattre ses cartes, révéler sa vraie nature et s'opposer non pas à ce qu'un Polanski défend dans ses films mais à ce qu'il peut être. En énonçant cela, on en dit presque trop. Mais très vite, sans trop en dévoiler, le pouvoir du titre tient aussi de celui de l'électricité que du patriarcat. Plus le film progresse, dévoile ses contours surnaturels, plus les coutures du bric-à-brac convenu de l'épouvante Grand Guignol apparaissent en plein jour alors que la lumière s'efface au détriment d'une ambiance très sombre. Les spectres et les effets sanglants envahissent le décor, mais le suspense se dilue avant de totalement disparaître. La tentative de brouiller les repères à la fois spatiaux et temporels, avec une réalisation de plus en plus tape à l'œil, produit un effet contraire aux intentions, la narration étant ramenée sur des rails du pur produit discursif. Alors les clignotants MeToo, intéressants au préalable, même plus qu'intéressants, même passionnants, deviennent trop visibles pour convaincre. Le discours féministe est asséné maladroitement et chaque bonne idée avancée paraît mal exploitée. Le sens devient évident au moment même où le récit patine, se perd dans des digressions inutiles, cumule les fautes de goût par un revirement paradoxal. L'univers était cohérent tant que les enjeux étaient flous. Le style visuel en pâtit aussi entre montage cut, images subliminales et jumpscare à la mode. À trop vouloir signifier les enjeux dramatiques et aussi symboliques, n'offrant qu'une lecture simpliste et univoque du récit, The Power perd de sa singularité, ne retrouvant que brièvement l'exigence formelle de son début magistral. Alors soyons quand même indulgents en dépit de la déception flagrante. Il s'agit d'un premier long métrage aux intentions louables et même ambitieuses. Le talent de Corina Feith est indéniable. Elle sait créer une ambiance, filmer les lieux et diriger ses comédiens, notamment l'actrice principale Rose Williams, impeccable. Alors, mais en ne faisant pas assez confiance au pouvoir de suggestion des images et à l'ambiguïté narrative, elle finit par donner toutes les clés au spectateur qui, bien avant le twist final, a compris de quoi il en retournait. Les monstres des temps modernes ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils revêtent des habits beaucoup plus respectables. Mais ça, on le savait depuis longtemps.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine et tu as déjà deux films, Guillaume.
Oui, j'ai À nos enfants de Maria de Medeiros.
Et ça donnera l'occasion de l'entendre puisque tu as pu la rencontrer.
Et ensuite, la nouvelle adaptation des aventures de Maigret, cette fois-ci par Patrice Lecomte.
À la semaine prochaine.